L'Antichambre vous est présentée par Albi le Géant, le plus grand choix de véhicules neufs et d'occasion. Albi le Géant, on vous attend!
Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Antichambre. On a eu un match de baseball qui a fait durer le plaisir, comme on a dit, au Fenway Park entre les Red Sox et les Astros. Mais on est là en direct, un petit peu dépassé 23 heures pour cette édition de l'Antichambre. Un petit peu plus tard, au cours de l'émission, on va s'entretenir avec, on va recevoir dans nos studios le président de F1 Canada, François Dumontier. Ça aurait été le week-end du Grand Prix en fin de semaine, mais évidemment, avec la COVID, c'est un événement qui est à nouveau annulé cette année. On va en parler avec lui. On aura Ray Lalonde également avec sa chronique business du sport. On va notamment parler du début de l'Euro dès demain. Mais on va évidemment parler du Canadien, des séries de la Coupe Stanley. Patrick Friolet sera avec nous également un petit peu plus tard pour les faits saillants du match entre Vegas et Colorado. Bonsoir, messieurs. Benoît, bonsoir, Vincent, bonsoir, PJ. Bonsoir. Je suis content que vous avez été patient.
On a fun game de base.
On a écouté le hockey aussi.
Ben oui, effectivement. Hey, on va y aller tout de suite avec les manchettes, une présentation de Albi le Géant. Vincent, t'avais gardé pour la fin hier. Ce soir, c'est toi le premier.
Moi, je vois avec Cole Caulfield, sa vitesse d'exécution m'impressionne beaucoup. Je savais qu'il y avait la vitesse pour exécuter un lancer rapidement, mais là, il y a une vitesse d'exécution dans ses passes. Ils sont solides, sont rapides, sont vite. Et aussi la vitesse à laquelle il prend l'information. Tu sais, mm-hmm. Pourquoi ce gars-là n'est pas capable de... Il se fait pas frapper, il n'est jamais dans le trouble, dans sa zone ou en zone offensive. Il n'y a personne qui peut le frapper. C'est parce que l'information est capable de la prendre rapidement, éviter les mises en échec. Et moi, il m'impressionne beaucoup. Il n'a pas marqué de but encore en séries éliminatoires, mais ce qu'il fait sur la patinoire, les petits détails, beaucoup de maturité dans son jeu. Puis c'est parce qu'il est vite dans ses prises de décision.
Et toujours en mouvement.
Et il a contribué à l'avantage numérique. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard au cours de l'émission. Benoît, ta manchette.
Bien, moi, c'est saisir l'opportunité. Je parle de Carey Price, qui a été excellent depuis le début des séries. Je pense qu'on en a parlé régulièrement avec PJ. Ses chiffres au cours des dernières saisons, ça laissait à désirer. En 2010, c'était le spectacle à l'arc qui n'était pas là quand le Canadien se retrouvait en conférence, dans la finale de conférence. En 2014, premier match contre les Rangers, il se blesse. Le Canadien se fait éliminer. On ne se rend pas en finale. Et là, on va se retrouver contre deux bons clubs. Alors, on ne sait pas qui va gagner encore ce soir. Là, c'était 4-3 pour Vegas aux derniers instants. Puis moi, je pense qu'il y a une opportunité en or de peut-être changer l'opinion que certaines personnes ont de lui présentement. On parle beaucoup de son salaire quand ça va pas bien. On parle de ses chiffres quand ça va pas bien. Moi, je trouve que c'est lui qui a volé la série contre Toronto. Il a été juste correct. Il n'a pas besoin de faire grand-chose dans la série contre Winnipeg. Mais là, saisir l'opportunité de jouer, peu importe contre qui on va jouer, d'amener son club encore à un autre niveau. Moi, je pense que le succès du Canadien va encore passer par Carey Price dans cette série-là. Alors, à lui de relever le défi puis de démontrer à tout le monde que c'est encore un grand gardien.
Et un peu comme chez Weber, on en parlait hier, il ne restera pas 10 occasions là, après cette année là, de se rendre jusqu'au carré.
C'est un beau duel contre Fleury avec Vegas, en tout cas.
On va voir. PJ?
Merci, Luke Richardson. Pour moi, le défensif des Canadiens, on parle de Carey Price. Mais il n'avait pas besoin d'être très bien contre Winnipeg, parce que je pense que le défensif était incroyable. Puis surtout la façon qu'il a utilisé le 5-6. Normalement, que moi, je suis toujours sur le quatrième trio quand je jouais, ils mettaient souvent le 5 et 6e défenseur sur la glace. C'est comme mettre tes 5 pires joueurs sur la glace à la même temps. Mais j'ai beaucoup aimé la façon que Luke a mis comme, je vais dire, le 5e ou le 5 avec le 3 ou le 6 avec le 1. Puis avec contre qui il les a mis. Puis les autres soirs, quand ils pensaient qu'ils avaient besoin de rouler à 4, il roulait à 4.
Protégeait ses défenseurs.
Oui, j'ai talentueux. Beaucoup aimé la façon. Oui. Alors, le coach, tous les coachs, mais la défense...
C'est un point tournant, PJ.
Oui.
Moi, je trouve que c'est un des points tournants de la série contre Toronto.
La gestion des défenseurs.
Ouais. Très bon point.
Ça va être intéressant avec Petrie. Ça va être très...
On peut peut-être rebondir là-dessus, justement, PJ. Le fait que le Canadien se repose cette semaine, là, les défenseurs, on le sait, ont plus de millage, jouent, tu sais, Sherrod, c'est plus difficile, tout ça. Est-ce que ça va aider le Canadien dans la prochaine série là, de pouvoir peut-être reposer ces bonhommes-là encore plus? Hein?
Come on, Joe Kemper, tous les Canadiens veulent que les... ça va à 7.
Oui, en troisième prolongation.
C'est ça, puis des blessures à tout le monde. Mais si ça commence bientôt, là, c'est, la grosse question, comme les deux équipes ont des bonnes top 6, OK? Ça va être, on va rouler à 4 dans des moments très importants. Si Petrie est blessé un peu, ça va taxer. Je pense que ça va être Kulak qui va être le quatrième qu'on va mettre dans cette position-là. Mm-hmm. Il y avait des moments pendant la saison qu'il était capable de jouer contre les autres meilleurs trios. Mais on parle de Vegas puis on parle de Colorado avec une couple des meilleurs trios dans la Ligue, dans les conférences de finale, les finales de conférence. Alors, la pression, l'université, pour moi, ça va être très intéressant de voir comment Luke va être capable de... Si Petrie est blessé.
Mm-hmm. Oui, parce que c'est encore Romanov qui était là aujourd'hui sur le troisième pas. Même qu'on a emmené Cale Fleury pour s'entraîner avec Xavier Ouellet, on va probablement emmener 8 défenseurs. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de John Merrill encore. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que le fait qu'on se repose présentement, ces défenseurs-là vont...
Oui, parce qu'on peut en avoir 8, 9 défenseurs, mais la réalité, c'est que le top 4 va jouer 90% des minutes. Ouais. Ça a été ça dans les premières deux séries. L'entraîneur de Winnipeg a parlé du top 4 du Canadien, comment c'était difficile d'aller devant le filet de Price puis de déranger parce que tu parles des Rangers quand il était blessé. La raison pourquoi est-ce que Price était blessé, c'est parce qu'il n'y avait personne pour arrêter les
2014.
En 2014, il n'y avait personne pour arrêter Kreider puis les autres à rentrer au filet et déranger Price. Là, c'est difficile. Tu vas te faire brasser pas mal. Puis c'est ce qui fait la différence cette saison. C'est qu'on a des gros bonhommes qui sont mobiles, qui sont tough, qui rend ça très, très difficile pour l'adversaire. Puis ça va prendre ça pour battre des Colorado ou Vegas en avant du filet.
Moi, des fois, puis non plus, j'ai pas été utilisé à outrance, mais dans la Ligue nationale, mais à certains niveaux, Vincent, je suis convaincu qu'il peut en parler, c'est que... Tu sais, des fois, quand tu roules tes 6 défenseurs, puis dans notre temps, quand on jouait pour Canadien, là, des années de Jacques Demers puis Jacques Laperrière, il se coupait vite en temps là, pour les défenseurs. Puis moi, je trouve que des fois, ça devient plus facile de te préparer pour un match quand tu sais que tu vas jouer plus, puis que tu vas sauter régulièrement sur la glace, que toujours rouler tes 3 duos de défenseurs, tes 4 trios. Tu sais, des fois, quand tu donnes un peu plus de temps de glace à tes meilleurs joueurs, là, sont plus dans le game. C'est la même chose que tes défenseurs, là, sont sur le banc. Bon, là, ça va être Merrill avec Gustafsson, ça va être Merrill avec Kulak, peu importe, là, quand le Canadien est en santé. Moi, je pense que c'est un effet qui est très, très motivant pour les joueurs parce que vraiment, tu te sens impliqué dans les matchs. Tu sais, junior ou dans la Ligue américaine, quand je jouais, tu fais partie des meilleurs joueurs, mais tu es toujours sur la glace, là, en avantage numérique à 5 contre 5, à une mise en jeu. Moi, je pense que ça allait impliquer les défenseurs. C'était le point tournant de la série. Un des points tournants, c'est sûr que Carey était exceptionnel, mais le repos, je pense que ça va être très, très, très bien pour les défenseurs.
On va laisser tomber un peu les défenseurs. Peut-être jeter un coup d'œil, rafraîchir la mémoire, les trios à l'attaque du Canadien. On s'est rentraîné aujourd'hui sur la patinoire. On était hors de glace. Alors, on voit les mêmes unités, celle de Suzuki, celle de Dano, celle de Keke. Ce qu'on appelle le quatrième trio présentement de Staal, Perry et Armia qui fait du bon travail. Question peut-être simple. Qui a été le meilleur trio jusqu'ici pour le Canadien en série? Vincent, peut-être?
Moi, je vois avec le trio de Suzuki, même si ils ont tous été bons. Je pourrais dire le trio de Staal qui était impressionnant, mais j'aime beaucoup ce que je vois du côté offensif de Toffoli, de Caulfield et de Suzuki. J'ai l'impression qu'ils vont être ensemble longtemps. On a finalement trouvé notre premier trio. Caulfield, c'est un peu la carte. Bon, est-ce qu'il va être prêt pour la Ligue nationale, arriver en série? Il a démontré qu'il avait tout le talent nécessaire pour le faire, la vitesse. Puis c'est vraiment le trio qui a compté des gros, gros buts, 2 buts en supplémentaire. Le but de Suzuki contre Toronto, le match qui a fait vraiment changer la dynamique, puis le gros but pour éliminer Winnipeg. Donc, c'est mon choix, c'est le trio Suzuki.
PJ?
Oh, moi, je suis partout.
Tu vas y aller avec le quatrième trio.
Non, je suis partout dans tout ça parce que moi, je pense que le seul constant, c'était le quatrième trio. Mm-hmm. Là, on va parler de l'histoire d'Ano Armia. Moi, je pense qu'on ne donne pas assez de crédit qu'est-ce que Dano et ce trio étaient capables de faire contre les gros trios des autres équipes. L'autre côté de ça, ils ont juste 2 points. Mais les trios de Matthews avaient pas beaucoup de points. Le trio de Wheeler avait pas beaucoup. Alors, il faut donner crédit aux autres. Vincent vient de mentionner, on aime le trio de Suzuki, Caulfield puis Toffoli. Puis ça laisse peut-être le seul trio que je peut-être on va voir un peu plus, c'est celle de Kéké. Kéké, Biron puis Anderson, surtout la façon que Anderson a commencé les séries. Mais à part de ça, choisis un. Moi, je veux choisir le côté défensif.
Ils sont tous bons.
Ils sont tous bons.
Moi, j'ai choisi Stahl, mais écoute, j'aurais pu choisir. Je suis d'accord avec PJ. Le trio de Kéké, surtout Anderson. Je sais pas s'il est blessé, Anderson, mais je pense que c'est dans la série contre Vegas ou Colorado, peu importe, là, il faut absolument qu'Anderson, parce que dans le premier match, là, il était tout feu, tout flamme, puis il patinait, puis il a été incroyable. Puis là, d'un coup, il y a une baisse de régime. Mais le trio de Stahl, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il était impliqué dans les matchs, puis tôt dans les matchs. Ils ont été bons dès le début des matchs. Tu sais, le match numéro 5, Armia en marque 2, finalement, pouf, tu fais une remontée, tu gagnes le match numéro 6, tu gagnes le match numéro 7. Dans le premier match à Winnipeg, c'est Stahl qui a marqué, je pense, le deuxième but du match, tout près du filet, puis Perry avait encaissé une mise en échec. C'est ce qu'on veut voir. Puis, tu sais, quand on regarde les fameux match-ups, ils n'ont pas toujours joué contre le trio de Thompson parce que, tu sais, tranquillement, pas vite, des fois, dans un match, tu peux pas toujours gérer tes match-ups, mais quand ils jouent contre le trio de Thompson, c'est dans la petite poche en arrière, là, le trio de Stahl, ils les ont mis complètement dans leur poche. C'est la même chose contre Toronto. Quand ils affrontaient le quatrième trio, souvent, là, c'était difficile pour le quatrième trio de gérer ces gars-là. Ça, c'est j'ai hâte de voir la confrontation. Si jamais... on va les voir contre Reeves, ces gars-là. Là. Ça va être intéressant à voir.
Ça va être intéressant d'avoir après, parce que c'était le trio pour moi le plus constant.
Ouais.
Chaque soir, ils font 13, 12 à 14 minutes par soir. Puis chaque soir, ils ont un point, un but minimum chaque game.
Ils l'ont fait de façon différente du trio de Suzuki. Suzuki, c'est la vitesse d'exécution, la vitesse sur patin, la contre-attaque. Stahl avec Perry et Armia, c'est qu'ils s'en vont dans le fond de territoire. C'est le cycle qu'on appelle, les batailles. C'est
plus lent. C'est ton gardien en passant. Puis...
Ils lancent pas la rondelle pour rien, ils gardent ça dans leur patin. Puis c'est fatigant pour les défenseurs, fatigant pour les lignes adverses.
On n'en est pas là, tu sais, mais dans le fond, j'écoute votre constat. C'est le trio de Kéké qui est peut-être rendu le quatrième en ce moment en termes d'efficacité.
Ouais.
Si jamais on veut vraiment réintégrer Evans, est-ce qu'à un certain moment, on pourrait sortir Kéké ou Byron? Parce que je pense pas qu'on va sortir Anderson.
Je pense pas qu'on peut sortir Kéké, parce qu'il est quand même bien fait. Celui qui me déçoit un peu, bien, déçoit. Anderson, c'est un gars qui va peut-être pas avoir de points, mais il va être efficace quand même. Puis, tu sais, il va avoir 25 buts dans l'année, il va avoir 12 passes.
T'enlèves qui?
T'enlèves personne.
OK.
Donc, Evans de côté.
Evans, en ce moment, à moins d'une blessure, peut pas rentrer, parce que Lekkonen a tellement bien fait.
Oui.
Moi, je risquerais pas de blesser encore Jake Evans avec 3 commotions cérébrales dans la dernière année. Faut qu'il guérisse comme il faut. J'aime mieux rester avec Lekkonen, pas prendre de risques avec Evans.
L'avantage numérique. Ça a mal parti au départ. Les 5 premiers matchs contre Toronto, il y a rien qui fonctionnait. Puis là, soudainement, depuis, on parle de 7 victoires, mais dans les 6 derniers matchs, on parle de 33% d'efficacité. Est-ce que c'est juste Eric Gustafsson ou...
Ça revient sur la manchette de Vinny. Moi, je pense que
c'est Caulfield.
Tu veux regarder, surtout avec Colorado puis Vegas, les unités spéciales, celles de Washington. À part de Ovechkin, tout le monde est en mouvement. Tampa, c'est la même chose. Finalement, les choses avec Montréal, on était toujours on était stationnement. Personne ne bougeait. Maintenant, tu vas Cole Caulfield. Cole Caulfield est partout sur la glace. En haut, il descend, il va au filet, il retourne dans le coin. Puis c'est comme la rondelle le suit partout sur la glace. Check, il trouve les endroits. Moi, j'aime la façon qu'il bouge beaucoup plus maintenant.
Moi, je te dirais aussi que les 5 joueurs sur la patinoire comprennent très bien leur rôle puis ils savent exactement où aller. Alors, on sait que Caulfield, où il va être, Gustafsson, il est en haut. On sait que Perry va être en avant du filet, il va déranger le gardien de but. Et Suzuki, Toffoli, c'est les seuls qui peuvent être en permutation, qui va être dans l'enclave, qui va être de l'autre côté. Mais avant, on dirait qu'on ne savait pas trop, dépendamment de la rondelle. Les joueurs savent exactement où aller. Ouais. Ça bouge la rondelle, puis c'est... On a 2-3 jeux, puis c'est pas compliqué. C'est la vitesse d'exécution, la vitesse de faire bouger la rondelle, faire bouger la boîte défensive.
Moi, je suis pas un gros fan de Gustafsson, mais quand tu l'utilises de la façon qu'il est utilisé, puis tu le places en avantage numérique, moi, l'autre changement que j'ai remarqué aussi depuis la série contre Winnipeg, ce qui a aidé un peu moins contre Toronto, les entrées de territoire.
Ouais.
Tu sais, le Canadien, en saison régulière, là, ça marchait pas ce jeu de puissance. Des fois, c'est pas juste aller t'installer, puis c'est vrai que l'arrivée de Caulfield, pour moi, ça l'aide le Canadien en avantage numérique, puis... Mais c'est, ça, c'est, pour moi, c'est primordial. Puis Gustafsson, il le fait bien. Il est capable de gérer ce qui se passe dans la zone centrale, de trouver le gars qui est en mouvement ou qui est libre à la ligne bleue. Ça, pour moi, là, contre Vegas, contre Colorado, peu importe qui le Canadien va affronter, il faut que tes sorties de territoire ou tes entrées en territoire du club adverse soient à la hauteur. Parce que t'as beau vouloir faire ce que tu veux, si t'es pas hâte de t'installer, t'en marqueras pas de but en avantage numérique. Puis Vincent a raison, PJ aussi. Ce que j'ai aimé aussi, récupération de rondelles. Tu sais, quand on voyait les clips tantôt, le Caulfield qui va se placer sur le bord du filet, mais t'as trois gars du Canadien en fond de territoire qui donnent leur bagarre un contre un, qui vont récupérer. Tu sais, t'as beau avoir des lancers, si tu récupères pas le retour de lancer ou si tu vas pas récupérer les rondelles en fond de territoire, c'est des dégagements faciles pour l'adversaire, là. T'es dans le trouble en avantage numérique. Fait que tout ça ensemble a fait que le jeu de puissance canadien joue mieux.
Puis c'est drôle parce qu'au commencement de la saison, Caulfield n'était pas sur l'avantage numérique. Gustafsson n'était pas là. Puis Perry était sur l'équipe de Taxi. Alors, puis la même chose quand les séries ont commencé.
Puis on parle souvent des unités spéciales. Le désavantage numérique est premier aussi présentement. Puis en plus, on va chercher des buts. Puis ça casse le rythme. On le sait, les Canadiens mènent la Ligue nationale pour les buts en désavantage numérique. Ils sont contre la saison. Mm-hmm. Alors, les unités spéciales, c'est une partie importante. Même s'il y a moins de punitions durant les séries, dans ces deux niveaux-là, le Canadien peut se permettre d'être peut-être optimiste face à la suite des choses.
Hein? C'est majeur.
Oui, parce qu'à 5 contre 5, le Canadien joue bien. Depuis des années, c'est une équipe qui est rapide. Puis ce qu'il leur faisait mal, c'était les unités spéciales. S'ils sont capables d'être meilleurs que l'adversaire sur les avantages numériques, des avantages numériques, bien, il y a un avantage flagrant.
Messieurs, on va se faire un petit dans le mille dans le champ. On a sorti 4 affirmations pour vous, pour s'amuser un petit peu ce soir. Les Islanders peuvent surprendre le Lightning. Vincent?
Moi, j'ai dit dans le mille, pas parce que je pense qu'ils vont gagner contre le Lightning, mais je serais pas surpris qu'ils en gagnent deux matchs. C'est un club un peu à l'image du Canadien qui travaille fort, qui sont balancés, gardent
les buts. Barry Trotz qui
est... Barry Trotz est bien organisé. Le Lightning va être très, très difficile à battre, là, mais je pense qu'ils peuvent surprendre.
Benoît?
Moi, j'ai dit dans le champ à cause des gardiens de but.
Okay.
C'est sur Sorokin qui a bien fait dans la première ronde contre Pittsburgh. Il est revenu en relève. Après ça, Varlamov est revenu. Varlamov a été excellent dans la série contre Boston, puis il a fait le travail. Mais je regarde travailler Vasilevski. Dans un mauvais match, son club en marque 6, puis il gagne 6-4.
Ouais.
Puis il en donne 4. Puis dans les bons matchs, il en donne un ou deux, puis son club en marque 4. Moi, c'est la seule et unique raison, parce que les Islanders, en première ronde, j'ai choisi pour battre Pittsburgh. J'ai choisi les Islanders pour battre Boston, mais là, je peux pas aller contre le Lightning de Tampa Bay à cause du gardien de but.
On n'a pas vu pendant la saison. Tampa Bay vient de recevoir 18 millions de...
Kucherov, puis David Savard.
Oui, ça change complètement leur équipe.
Ouais.
La façon qu'ils ont battu Caroline, c'est pas mal. Puis Floride aussi, ils sont capables de gagner gardien de but. Sinon, ils sont capables de scorer avec 6 plus facile. J'aime qu'est-ce que les Islanders ont fait à date. C'est incroyable, mais... Ouais. Tant chien, c'est pas de question.
PJ, écoute la prochaine affirmation. Les Bruins sont sur la pente descendante. Je vais commencer avec Benoît. Réfléchis pour toi, là. Est-ce que les Bruins sont sur la pente descendante?
Moi, j'ai dit dans le mille parce que je regarde surtout la défensive. Tu sais, je pense que Krejci a ralenti en attaque. Taylor Hall, ça a été correct. Là. Il a bien fait. Là. Je regardais encore la défensive. Puis la blessure de Carlo, la mise en échec de Clutterbuck, ça fait très mal. Mais là, tu laisses partir Chara. Puis je dis pas que Chara aurait dû rester avec les Bruins. Mais là, tu as perdu Torrey Krug. Là, je regardais Mike Riley.
Tenordi.
Puis Jared Tenordi jouait pour les Bruins de Boston. Puis là, tu te dis, après ça, là, quand ça s'étire en série, il faut que tu gagnes, que les matchs deviennent importants. Pour moi, la défensive des Bruins, présentement, ça va sur la pente descendante. Et si on ne rémédie pas à ça, je pense que les Bruins vont avoir de la difficulté à rester compétitifs.
PJ, les Bruins.
J'espère que personne ne m'écoute.
Il est tard.
C'est tard. Dans le mille.
T'as dit dans le mille.
À cause de toutes les raisons que Ben vient de mentionner. Check, c'est une autre année incroyable de Marchand puis Bergeron. Mais pour moi, c'est la première année qu'ils ont trop de trous. Ils sont allés chercher Hall, c'est une des meilleures dans la Ligue, en supposant, mais ils n'étaient pas capables de le faire à défense. C'était la place où il y avait beaucoup de profondeur. Mm-hmm. Pour la première fois, c'est la côté gauche, t'as presque personne. Puis une blessure à défense, comme tu as mentionné.
Ça
fait mal.
Vincent?
Moi, je vais dire que dans le champ, parce que les Bruins sont bien positionnés au niveau du cap. Tu regardes le premier trio, il n'y a pas un de ces attaquants-là, Bergeron, Marchand et Pasternak, qui fait 5 millions.
C'est incroyable.
De moyenne. C'est incroyable. Fait que oui, tu peux perdre Haas, tu peux perdre Krejci, des joueurs qui deviennent libres, mais tu peux après ça aller signer des joueurs puis t'entourer ces gars-là parce qu'ils coûtent pas cher pour qu'est-ce qu'ils te donnent comparativement à d'autres joueurs qui font 10, 11, 12 millions. Tu as des excellents joueurs dans ton noyau qui te font pas mal au niveau du cap. Fait que ça, c'est toujours une flexibilité. Puis, il y a des McAvoy, Carlo était blessé, un bon jeune défenseur. Il y a quand même des bons jeunes joueurs aussi.
Oui, il y en a. Puis on a vu le jeune Swayman aussi qui peut amener une certaine relève au niveau des gardiens de but. On verra
bien. Messieurs, là...
Oui, c'est sûr.
Non, un beau petit point d'interrogation. Là. Lui, s'il décide de retourner chez eux, là, aller voir sa femme, là, il peut partir pendant 2 mois. Là.
rapidement. Brett Kulak peut absorber des minutes en l'absence de Petrie. PJ.
Moi, je pense que oui. Je vais dire dans le mille, parce qu'il était capable de le faire, mais pas au même niveau. Il est capable de jouer les minutes, mais pas la même niveau.
C'est dans le mille ou dans le champ?
C'est ça. Moi, je veux dire dans le champ, parce que tu peux pas remplacer Petrie. Même si tu as 5 minutes de plus pour Kulak, c'est pas Petrie. Tu as besoin du top 4. Le top 4 qu'on connaît contre une équipe qui va être très, très difficile, que ce soit Colorado ou Vegas. Fait que pour moi, Kulak, oui, il est capable de, à court terme, dans la saison régulière, de peut-être jouer une couple de minutes de plus, mais... En série, t'as besoin
dans le champ, puis je suis d'accord avec Vincent. Si Kulak est obligé de jouer plus de 25 minutes par match parce que tu décides de jouer à 4 défenseurs, c'est impossible. Fait que c'est là qu'il faut être obligé de donner plus de temps de glace à ton 5e, ton 6e. T'as pas le dernier changement sur la route. Impossible de remplacer Petrie, je suis d'accord avec Vincent.
Moi, je suis positif.
Merci, messieurs. On s'arrête pour une petite pause. On jase LNH au retour. Et n'oubliez pas, un petit peu plus tard également, François Dumontier qui sera dans nos studios pour parler de ce qui aurait pu être le week-end du Grand Prix en fin de semaine.